أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Lors de mon dernier sermon, j'avais souligné l'importance de la Salat et l'importance de les accomplir. J'ai reçu des lettres personnelles de plusieurs personnes, des lettres dans lesquelles ces personnes m'ont fait part de leur embarras suite à leur paresse. De plusieurs endroits, j'ai reçu des lettres des administrations de la Jamaat et des organisations auxiliaires, des lettres dans lesquelles les responsables m'ont fait part qu'il y a eu de la paresse à cet égard et qu'ils seront vigilants à cet égard à l'avenir et qu'ils vont faire des programmes à cet effet et qu'Inch'Allah, ils tenteront de se débarrasser des lacunes à l'avenir. Qu'Allah leur accorde la possibilité d'agir de la sorte. Et qu'Allah fasse que nos mosquées soient remplies. Cependant, les responsables doivent aussi comprendre que pour qu'il y ait des résultats excellents pour toute œuvre, la constance est la condition sine qua non. Au début, nombre d'entre nous entamons une œuvre avec beaucoup d'ardeur. Mais après quelque temps, la paresse s'installe. Telle est la nature de l'homme. Le fait que les membres soient victimes de paresse ne comporte pas de conséquences néfastes, quoique cela est aussi inquiétant. Si par contre l'organisation fait preuve de paresse, eh bien la situation sera très dangereuse. Si l'organisation qui doit interpeller les membres est paresseuse, ou si cette organisation fait preuve d'indifférence à l'égard de sa mission, eh bien il sera difficile de réformer les membres. Quand la paresse s'installe naturellement, il devient très difficile dans ce cas d'effectuer la réforme. Ainsi donc, les organisations auxiliaires et l'organisation centrale de la Jamaat doivent être vigilants, en particulier concernant cette œuvre qui concerne le but même de notre création. Et ces organisations doivent dresser des plans et mettre en place des programmes afin qu'avec le passage du temps, au lieu que la paresse s'installe, l'on progresse quotidiennement. Nos progrès dans nos actes d'adoration vont nous faire progresser. Ainsi, c'est quelque chose de très important. Toute l'organisation de la Jamaat doit être sérieuse à cet effet. La Lajna Imaïla doit jouer son rôle à cet effet. Les femmes doivent s'assurer que les enfants accomplissent leur Salat à la maison et elles doivent faire en sorte qu'ils aient l'habitude d'accomplir la Salat. Et elles doivent constamment encourager les hommes et les jeunes à accomplir la Salat à la mosquée. Voilà les tâches qui incombent aux femmes. Si les femmes jouent leur rôle, eh bien elles pourront apporter un changement extraordinaire. Je veux aussi corriger certaines personnes qui affirment qu'on ne doit pas leur demander d'accomplir la Salat ou qu'on ne doit pas les questionner à propos de la Salat, car c'est là une affaire entre nous et Allah, disent-ils. Certaines femmes font des doléances à cet effet. Elles disent, si nous faisons des rappels à nos maris, eh bien, ils commencent à se disputer avec nous. Je dis à ces personnes que c'est là, certes, une affaire entre Dieu et l'intéressé. Cependant, la Nizam et Jamaat a pour but d'attirer l'attention des gens à ce sujet et de s'enquérir à ce propos. De même, c'est un devoir qui incombe aux épouses, voire c'est là leur obligation. Si c'était une question du bon vouloir, à savoir que si l'on pouvait prier quand on a envie et ne pas prier quand on n'avait pas envie, ou si l'on dort à point fermé à l'heure de la prière de Fajr, on est en train de dormir parce qu'on rentre fatigué à la maison et qu'on est en train de dormir profondément et qu'on ne doit pas nous réveiller. S'il était donc une question de choix personnel, eh bien, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas enjoint au mari et à la femme que celui ou celle qui se lève en premier doit réveiller son compagnon. Et si l'autre ne se réveille pas, il faudra lui asperger le visage d'un peu d'eau. Dans certains endroits, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a émis des avertissements très sévères. Lors de mon dernier sermon, j'avais aussi cité certains hadiths à cet effet. Ainsi, il est tout à fait erroné de croire que nous sommes libres à propos de ces questions et que c'est une affaire entre nous et Dieu. Si l'organisation auquel vous vous êtes attaché vous pose des questions sur l'accomplissement de la prière et que si cette organisation a pour but d'analyser la situation de la Jamaat à cet effet, eh bien, au lieu de s'irriter, au lieu de se courroucer, vous devez coopérer avec cette organisation. Si l'on est en train d'accomplir la prière en congrégation et qu'on commence à annoncer partout, fièrement, que voilà, moi j'accomplis les prières en congrégation, eh bien, ce sera là un péché et ce sera malvenu de faire pareille annonce. En tout cas, tout un chacun doit comprendre l'importance des salats et on doit, avec beaucoup d'attention, conformer sa conduite aux ordres d'Allah et du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après ce rappel, je présente certaines directives du Messie premier l'Islam, directives qui concernent la Salat, des directives qui concernent généralement des questions de jurisprudence, où cela concerne certains faits à propos desquels le Messie premier l'Islam a attiré l'attention de l'Ahmadi, des faits qu'il doit mettre en pratique. On pose généralement des questions à ce sujet, d'où l'importance de ce sujet. par la grâce d'Allah, des musulmans appartenant à différentes obédiences se joignent à la Jamaat Ahmadiyya. Certains de leurs usages d'antan ne sont pas pratiqués au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Ces usages ne sont pas courants au sein de la Jamaat Ahmadiyya en raison des instructions que nous avons reçues de la part du Messie premier al-Salam. Et étant donné que nous avons accepté le Messie premier al-Salam en tant que Hakam et Radl, en tant que juge juste et arbitre, eh bien, nous allons devoir suivre ces instructions. Des instructions qui sont d'ailleurs en accord à la conduite du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et à la conduite de ses compagnons. Parmi ces pratiques, il y a ce qu'on appelle la Rafa Yadayn, c'est-à-dire le fait de lever les mains jusqu'aux oreilles lors de chaque takbir ou à chaque changement de posture lors de la salat. Ces petites divergences au sein de l'islam ont fait naître des scissions parmi des musulmans. Voir cela s'est terminé par des bagarres dans certains endroits et des fatwas accusant les uns les autres d'incroyance ont été émis en raison de ces divergences. À titre d'exemple, si les membres d'une secte accomplissent la prière funéraire derrière un imam appartenant à une autre secte, eh bien leur mollah annoncera que leur nikah, leur mariage a été dissolu. Ce ne sont pas là des faits du passé, ces pratiques sont aujourd'hui courantes. On a relaté que récemment en Inde, les membres d'une secte ont accompli la prière funéraire d'un individu derrière des membres d'une autre secte et un mollah a lancé une fatwa que leur mariage a été dissolu. Tous les gens de ce village ou de ce quartier sont partis voir ce mode-là et ont fait une file devant sa porte. Et celui-ci a célébré leur nikah, leur mariage de nouveau. Ils ont fait de la religion une farce ou un moyen pour semer les troubles. Le Messie premier d'Islam, quant à lui, est venu mettre fin à ces disputes. Et c'est pour cette raison qu'il a annoncé que je suis le juge et l'arbitre et acceptez-moi. Il a résolu ces questions et il a permis certaines petites divergences dans la pratique. À propos de cette pratique qu'est la Rafa Yadayn, le fait de lever les mains jusqu'aux oreilles, lors de chaque mouvement, le Messie premier d'Islam a déclaré que je n'y vois aucun mal qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas. On trouve mention des deux pratiques dans les hadiths et ces pratiques sont en vogue chez les wahhabites et chez les sunnites. Les uns le font et les autres ne le font pas. L'on en déduit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le faisait à une époque et qu'il a ensuite abandonné cette pratique. Ce n'était pas la pratique courante du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il l'avait fait à une occasion, certaines personnes suivent cette pratique, donc il n'y a rien de condamnable à cet égard. Et ce n'est pas la peine de faire des controverses à cet égard. Mais le Messie premier des salam a accordé préférence à la pratique la plus courante du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Sahib relate que Hafiz Nur Muhammad, habitant de Faizullah Chak, lui a relaté ceci en écrit. Une fois, nous nous sommes enquis auprès du Messie premier des salam sur la question de la récitation de la sourate Al-Fatiha derrière l'imam et de la question de lever les mains jusqu'aux oreilles lors de chaque mouvement et le fait de dire Amin à haute voix. Le Messie premier d'Islam a répondu « Ces pratiques sont avérées selon les hadiths et on doit certainement les suivre. » Sahibzada Mirza Bashir Sahib commente à ce sujet « Le Messie premier d'Islam a confirmé à maintes reprises que l'on doit réciter la sourate Al-Fatiha derrière l'imam lors de la prière en congrégation. » Or, dit-il, je ne crois pas que le Messie promet l'Islam a entériné la pratique de lever les mains jusqu'aux oreilles lors de chaque mouvement et de réciter Amin à haute voix. Si le Messie promet l'Islam le croyait nécessaire, il aurait suivi ces pratiques de manière constante. Or, telle n'était pas la pratique courante du Messie promet l'Islam. Sa conduite ordinaire était contraire à ces deux pratiques. La question de Hafiz Saheb comprenait plusieurs points. Et le Messie promis l'Islam, quant à lui, a répondu à la première question, à savoir de la récitation de la sourate Al-Fatiha derrière l'imam. Wallahu a'lam. Ceci sera attesté par d'autres récits, à savoir que l'on doit réciter la sourate Al-Fatiha. Or, les deux autres pratiques ne sont pas attestées par le Messie promis alayhi salam. Sabzada Mirza Bashir Ahmad Saheb relate que Mir Abdullah Sanouri m'a relaté au tout début. J'étais très intransigeant et je respectais religieusement ces deux pratiques, celle de lever les mains jusqu'aux oreilles lors de chaque mouvement et de réciter Amin à haute voix. Après avoir rencontré le Messie promis l'Islam, j'ai continué ces deux pratiques pour un certain temps. Un jour, après avoir prié derrière le Messie promis l'Islam, après la prière, le Messie promis l'Islam m'a dit en souriant, « Mir Abdullah, vous avez suivi cette pratique depuis fort longtemps. » Il évoquait ici celle de la Rafa Yadain, le fait de lever les mains jusqu'aux oreilles lors de chaque takbir. Mir Abdullah déclarait « Depuis ce jour, j'ai cessé cette pratique et j'ai cessé même de réciter Amin ou de dire Amin à haute voix. » Mir Abdullah rapporte que « Je n'ai jamais vu le Messie promis l'Islam lever les mains jusqu'aux oreilles à chaque takbir ou réciter Amin à haute voix ou énoncer Bismillah à haute voix au début de la récitation d'une sourate. » Mirza Bashir Ahmad Saheb relate « La pratique du saint prophète Mohammed P. lui concorde entièrement à ce qu'a dit Mir Abdullah. Or, depuis l'époque du Messie promis l'Islam jusqu'aujourd'hui, nous, les Ahmadis, nous ne critiquons personne qui suit ces deux pratiques. Nous ne critiquons personne qui adopte ces deux pratiques. Certains récitent Amin à haute voix et certains ne le font pas. Certains lèvent leurs mains jusqu'aux oreilles pour chaque mouvement lors de la salat et la majorité ne le font pas. À présent, cette pratique a complètement disparu parmi nous, les Ahmadis, hormis chez les tout nouveaux venus qui sont habitués à le faire, et eux aussi abandonnent cette pratique peu à peu. Certains récitent Bismillah à haute voix au début des sourates lors de la salat, et la majorité ne le fait pas. Le Messie promis l'Islam disait que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam suivait ces différentes pratiques. Or, le Messie promis l'Islam adoptait la pratique la plus courante du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a la question de croiser les mains lorsqu'on se tient debout pour la salah. Où doit-on placer les mains? Où doit-on croiser les bras? Hazrat Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Saheb relate, Molvi Mohammad Sarwar Shah m'a relaté. Une fois, le premier calife a reçu une lettre. Certaines personnes croisent leurs bras sous le nombril, d'autres au milieu de leur abdomen et certains le font très haut au-dessus de leur nombril. Le premier calife avait reçu une lettre qui lui demandait « Quand on se tient debout pour la prière, où doit-on placer ses mains ?» Dans la lettre, on a posé cette question, est-ce qu'il y a de hadith authentique attestant la pratique de croiser les mains au-dessus du nombril? Le premier calife a présenté cette lettre au Messie promis l'Islam en déclarant que les hadiths évoquant ce sujet sont sujets à controverse. Certains disent que ces hadiths sont authentiques, d'autres affirment qu'ils ne le sont pas. Le Messie promis l'Islam a déclaré, Molvi Saheb, cherchez et vous allez certainement trouver quelque chose. Le Messie premier Salam a déclaré : Je n'ai jamais aimé le fait de placer mes mains en dessous du nombril, en dépit du fait que nous vivions dans un milieu hanafi depuis le début. J'étais toujours enclin à placer mes mains au-dessus du nombril, a déclaré le Messie premier alayhi salam. Et à maintes reprises, j'ai constaté, dit le Messie premier alayhi salam, à maintes reprises, j'ai constaté que je trouve un hadith qui correspond exactement à mon penchant. Je trouve un hadith qui correspond à mon penchant, que j'en ai eu connaissance au préalable ou pas. Ainsi, le Messie premier Islam a demandé au premier calife de chercher et qu'il en trouvera certainement. Parce que, dit le Messie premier Islam, généralement je trouve des hadiths qui correspondent à mon inclinaison. Maulvi Sarwacha relate que le premier calife est parti et il est revenu, tout content après une demi-heure, un livre dans la main. Et il a informé le Messie premier qu'il a trouvé un hadith authentique, un hadith qui a été relaté par Abu Bakr et par Omar, un hadith à propos duquel il n'y a aucune controverse. Le premier calife a ajouté que c'est en raison des bénédictions du Messie premier l'Islam que j'ai trouvé ce hadith prouvant que la pratique la plus courante du saint prophète, paix soit sur lui, était de placer ses mains au-dessus du nombril. Hazrat Haji Ghulam Ahmad Saib a relaté, quelqu'un a demandé où doit-on placer ses mains lors de la solah. Certaines personnes sont trop pointilleuses et se limitent à ces controverses. Le Messie premier Islam a demandé que l'on fasse une recherche en ajoutant qu'il était plus enclin à placer sa main au-dessus du nombril. Et une autre personne a posé une question et une correction était nécessaire. En ce cas, le Messie premier Islam a déclaré: certes, il faut respecter les conventions externes de la solah. Or, il faudra accorder plus d'attention à Allah au cours de la solah. C'est cela l'objectif principal de la solah. On a posé la question de l'index que l'on doit soulever ou dresser lors du tashahhud. Quelqu'un a demandé pourquoi doit-on dresser l'index quand on récite la prière at-tahiyyat. Le Messie premier Islam a répondu: à l'époque de l'ignorance avant l'avènement de l'islam, les gens dressaient l'index en forme d'insulte. On appelait cet index sababa, c'est-à-dire le doigt utilisé pour insulter. Dieu a réformé les Arabes et il les a débarrassés de cette habitude en leur demandant de dresser l'index lorsqu'ils témoignent que Dieu est unique et sans partenaire, afin qu'on ne qualifie plus ce doigt de doigt de l'insulte, mais du doigt du témoignage. De même, les Arabes consommaient l'alcool 5 fois par jour, dit le Messie premier l'Islam. Et pour remplacer cette tradition, les 5 prières ont été prescrites. On a posé une question sur la récitation des prières coraniques lors du ruku, de la génuflexion et de la prosternation au cours de la solah. Maulvi Abdul Qadir Saheb Ludhiani a demandé: qu'en est-il de la récitation des prières coraniques lors du ruku et de la prosternation? Le Messie premier Islam a répondu: la prosternation et la génuflexion sont des instants empreints d'humilité et la parole de Dieu exige grandeur. D'ailleurs, aucun hadith ne prouve que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, récitait les prières coraniques lors de ses génuflexions ou de ses prosternations. Hazrat Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Saheb déclare à ce sujet, il dit: Mia Khairuddin Sikwani m'a relaté ceci en écrit. Un jour, le Messie premier Islam a déclaré qu'il faut beaucoup prier lors de la solah. Il a déclaré que l'on doit prier dans sa propre langue. Mais il faut réciter aussi les prières prescrites par le saint prophète Mohammed, que ce soit lui. Prières qu'il récitait à titre d'exemple lors de la génuflexion. Il faut réciter Subhan Rabbi al-Azim. Et lors de la prosternation, l'on doit réciter Subhan Rabbi al-A'la. On peut, après ces supplications, prier dans sa propre langue. D'ailleurs, il ne faut pas réciter les prières du Saint-Coran lors de la génuflexion ou de la prosternation, car le Saint-Coran est la parole pure d'Allah, et la parole d'Allah jouit d'un éminent statut. La génuflexion et la prosternation sont des états empreints d'humilité, d'où la raison de respecter la parole divine. Quelqu'un a demandé au deuxième calife: pourquoi est-il interdit de réciter les prières coraniques lors de la prosternation quand c'est là une position d'extrême humilité? Il faudra y réciter les prières coraniques afin que ces prières soient exaucées. Le deuxième calife a répondu: je croyais aussi qu'il était permis de réciter les prières coraniques lors de la prosternation. Or, par la suite, je suis tombé sur une référence du Messie premier l'Islam, dans lequel il avait interdit la pratique de réciter les prières coraniques lors de la prosternation. L'on trouve aussi hadith à cet effet dans le recueil de hadith Musnad Ahmad bin Hanbal. Or, même si je n'avais pas trouvé ces références contredisant ma croyance, j'aurais rejeté l'argument qu'il est permis de réciter les prières coraniques lors de la prosternation, étant donné que c'est une posture empreinte d'une grande humilité. Cet argument ne tient pas la route, dit le deuxième calife. Il ajoute, selon l'imam Malik, tout aliment se trouvant dans la mer est licite à la consommation. Quelqu'un lui a demandé: il y a aussi des porcs dans la mer. Est-il permis de consommer ces porcs qui se trouvent dans la mer? L'imam Malik a répondu: tout aliment de la mer est licite à la consommation, hormis le porc qui est interdit. La personne a répété sa question à maintes reprises. L'imam Malik a répondu: tout aliment de la mer est licite à la consommation, hormis le porc qui est interdit. Le deuxième calife commente: certes, la prosternation est une position de grande humilité. Or, l'on ne doit pas réciter les prières coraniques lors de la prosternation. La supplication mène l'homme vers le bas, et le Coran mène l'homme vers le haut. C'est pour cette raison qu'il est interdit de réciter les prières coraniques lors de la prosternation. Étant donné que l'on dispose du verdict du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, du Messie premier l'Islam, il serait malséant de le rejeter, même si l'on n'arrive pas à le comprendre. Notre action doit se conformer à l'ordre qui a été émis. Certaines personnes se joignent à la prière en congrégation lors de la génuflexion ou lors du ruku, comme on dit généralement. Dans ce cas, on ne rate pas une raka. Tout le monde sait cela depuis son enfance, à savoir que si l'on se joint à la prière en congrégation lors de la génuflexion, cette raka sera comptée. On a posé cette question et le Messie premier al-Islam a demandé l'opinion des érudits qui étaient présents quant au verdict des différentes écoles de jurisprudence de l'islam à ce sujet. À la fin, le Messie premier l'Islam a rendu ce verdict. Il a déclaré: ma pratique à moi s'accorde à la parole du saint prophète, à savoir qu'il n'y a pas de salat sans la récitation de la sourate al-Fatiha. Que l'on prie tout seul ou derrière l'imam, on doit réciter la sourate al-Fatiha. L'imam doit réciter la sourate al-Fatiha lentement afin que les fidèles puissent l'entendre et réciter la sourate, ou qu'ils puissent réciter chaque verset, où l'imam doit faire une pause suffisante après avoir récité chaque verset afin que les fidèles puissent réciter ce verset. En tout cas, il faudra accorder aux fidèles l'occasion d'entendre ces versets et de réciter ces versets. Il est essentiel de réciter la sourate al-Fatiha parce que c'est la mère du livre. Mais quant à la personne qui, en dépit de ses efforts, des efforts qu'il fait pour se joindre à la prière, quand cette personne arrive, lorsqu'on est à la position de la génuflexion, eh bien sa raka est comptée, même si cette personne n'a pas pu réciter la sourate Al-Fatiha. Parce qu'il est dit dans les hadiths que celui qui est arrivé à la position ruku, lorsqu'il se joint à la prière, eh bien sa raka est comptée. Il y a deux types de questions ici. D'une part, le saint prophète Mohammed lui a insisté que l'on doit réciter la sourate Al-Fatiha lors de la sourate. La sourate Al-Fatiha est Umul Kitab. C'est cela la sourate. Mais celui qui, en dépit de ses efforts, en dépit du fait qu'il s'est empressé, est arrivé à la position ruku lors de la prière en congrégation, étant donné que la religion est basée sur les concessions et que la religion est indulgente. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed lui a déclaré que sa raka a été comptée. Et il n'est pas question ici de la récitation de la sourate Al-Fatiha. Ainsi, il a cette concession en raison de son retard. Le Messie premier d'Islam dit que Dieu a fait en sorte que mon cœur soit que je suis anxieux lorsque je commets une action qui est interdite. Et je ne désire pas commettre cette action. Étant donné que une personne a pu se joindre à trois parties du Saint-Coran et a manqué une partie en raison d'un retard de sa part, il n'y a pas de mal à cela. L'on doit profiter des concessions qui nous sont accordées. Mais quant à celui qui est paresseux, ahéciant, qui est toujours en retard pour se joindre à la prière en congrégation, eh bien sa prière n'est pas comptée. On a évoqué l'importance de réciter la sourate Al-Fatiha derrière l'imam lors de la sourate. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb déclare que Maulvi Sher Ali m'a dit que le Messie premier Islam insistait sur le fait que les fidèles doivent réciter la sourate Al-Fatiha derrière l'imam. Mais le Messie premier Islam disait aussi que, en dépit du fait que je considérais essentiel de réciter la sourate Al-Fatiha derrière l'imam, selon moi, la prière de celui qui ne le fait pas n'est pas nulle et non avenue, car il y a eu nombre d'amis d'Allah qui sont passés et qui ne considéraient pas essentiel de réciter la sourate Al-Fatiha derrière l'imam, et je ne dis pas que leurs prières ont été rejetées. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb déclare que, selon les Hanafites, les fidèles ne doivent pas réciter la sourate Al-Fatiha derrière l'imam. Et selon les Ahl Hadith, les fidèles doivent certainement réciter la sourate Al-Fatiha derrière l'imam. Et le Messie premier Islam soutenait les Ahl Hadith à cet égard. Mais il ne disait pas comme les Ahl Hadith que celui qui ne récite pas la sourate Al-Fatiha derrière l'imam, eh bien sa prière sera rejetée. Suite à la question de Munshi Rustam Ali Saheb, le Messie premier Islam lui a écrit que l'on peut accomplir la prière sans réciter la sourate Al-Fatiha derrière l'imam, mais il est préférable de réciter la sourate Al-Fatiha. Si un imam récite rapidement, eh bien, on doit tenter de réciter un ou deux versets. Si l'imam est en train de réciter rapidement, eh bien, les fidèles derrière lui doivent tenter de réciter un ou deux versets dans la mesure du possible. Mais il ne faut pas qu'ils récitent ces versets à haute voix, parce que s'ils vont réciter ces versets à haute voix, ils ne vont pas entendre l'imam. Si cela est impossible, eh bien, cela ne fait rien, ils ne pourront rien faire. En tout cas, vous devez écouter la récitation des versets de l'imam. Votre sola sera exaucée, mais ce ne sera pas une sola de qualité supérieure. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb déclare que Mia Khairuddin Saheb m'a demandé un éclaircissement au sujet de la récitation de la sourate Al-Fatiha derrière l'imam. Il avait posé cette question au Messie premier d'Islam, le fait de répéter les versets de la sourate Al-Fatiha derrière l'imam. Il répondit que la récitation de la sourate Al-Fatiha derrière l'imam est préférable.
J'ai donc demandé si on ne le fait pas, est-ce que notre prière sera acceptée ou pas. Il a répondu que la sola sera acceptée, mais il est préférable de réciter la surat al-Fatiha derrière l'imam. Il a aussi déclaré que si la prière sans la surat al-Fatiha derrière l'imam était exaucée, eh bien parmi les hanafites, il y a eu des gens très pieux. Comment est-ce qu'ils ont atteint ce statut alors qu'ils ne récitaient pas la surat al-Fatiha derrière l'imam? On peut accomplir la sola des deux manières. Il n'est question que de la supériorité de l'une des deux pratiques. De même, il est préférable de dire Amin à voix basse au lieu de le faire à voix haute. Pir Sirajul Haq Saib rapporte que Molvi Abdul Karim Saib m'a dit qu'un jour, il conseillait quelqu'un qui était de Salkout ou de ses alentours de répéter la surat al-Fatiha derrière l'imam. Et il lui avait présenté tous les arguments nécessaires, mais cet homme ne l'avait pas écouté. Et il ne récitait pas la surat al-Fatiha derrière l'imam, et il priait derrière nous. Une fois, cette personne s'est présentée à Qadian au Messie Premier al-Salam. Et nous avons commencé à discuter à ce sujet, et le Messie Premier al-Salam a déclaré, il faut réciter la surat al-Fatiha derrière l'imam. Et le Messie Premier al-Salam n'a pas présenté aucune preuve du Saint-Coran ou des Hadiths. En entendant cette parole du Messie Premier al-Salam, cet homme a commencé à réciter la surat al-Fatiha derrière l'imam. Et il n'a pas présenté d'argument. Quelqu'un a demandé au Messie Premier al-Salam, si une personne ne répète pas la surat al-Fatiha derrière l'imam, est-ce que sa sola sera agréée ou pas? Le Messie Premier al-Salam a répondu, il ne faut pas demander si sa sola a été acceptée ou pas, mais on doit plutôt demander s'il faut ou pas répéter la surat al-Fatiha derrière l'imam. Je dis qu'il faut certainement le faire, qu'il faut répéter la surat al-Fatiha derrière l'imam. C'est à Dieu d'accepter cette prière ou pas. Les Hanafites ne répètent pas la surat al-Fatiha et des milliers d'Aulia suivaient ce courant de l'islam et ne répétaient pas la surat al-Fatiha derrière l'imam. Si leurs prières ne furent pas acceptées, comment ont-ils pu atteindre le statut de wali? J'ai une certaine affinité avec l'imam Azam, l'imam Abu Hanifa. Et je le respecte énormément. Et je ne peux dire que la sola dans laquelle on ne répète pas la surat al-Fatiha derrière l'imam n'est pas acceptée. À cette époque, les hadiths n'ont pas été rassemblés. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a compris ce mystère. C'est pour cette raison qu'il était contraint d'adopter cette posture. Mais ce mystère a été résolu à présent. À présent, celui qui ne le fait pas, eh bien, sa prière ne sera peut-être pas acceptée. Je répondrai à chaque fois qu'il est préférable de répéter la surat al-Fatiha derrière l'imam. Une fois, j'ai demandé au Messie Premier al-Salam, à quel moment doit-on répéter la surat al-Fatiha? Il a répondu, là où bon il vous semble. J'ai demandé, est-ce que lorsque l'imam fait une pause, il m'a dit, là où c'est possible de le faire. Il y a aussi le sujet du respect de l'ordre des solats. Certaines prières sont combinées comme les prières de Zuhr et d'Asr ou de Maghrib et d'Isha. Et ceux qui viennent après ne savent pas quelle est la sola qui est en cours. Le deuxième calife a déclaré, j'ai entendu moi-même du Messie Premier al-Islam que si l'imam est en train de diriger la prière d'Asr et qu'une personne entre dans la mosquée qui n'a pas encore accompli la prière de Zuhr, ou si l'imam est en train de diriger la prière d'Isha et qu'une personne entre dans la mosquée et qu'elle n'a pas encore accompli la prière de Maghrib, eh bien cette personne doit compléter sa prière de Zuhr séparément et ensuite se joindre à l'imam ou accomplir la prière de Maghrib séparément avant de se joindre à l'imam. Lorsqu'il y a une combinaison des deux prières, si une personne vient en retard lorsque la prière a commencé, eh bien, le Messie Premier al-Islam a déclaré que s'il sait que l'imam est en train de diriger la prière d'Asr, alors cette personne doit compléter la prière de Zuhr séparément avant de se joindre à l'imam. De même, s'il sait que l'imam est en train de diriger la prière d'Isha, alors il doit compléter sa prière de Maghrib séparément, ensuite se joindre à l'imam. Mais s'il ne sait pas quelle est la sola qui est en cours, eh bien, il n'a qu'à se joindre à la Jamaat, il doit se joindre à l'imam. Dans ce cas, la salat qu'il accomplira sera celle de l'imam. Ensuite, il n'a qu'à compléter sa prière. Par exemple, si c'est la prière d'Isha et que cette personne entre en retard et que cette personne n'a pas encore accompli la prière de Maghrib, eh bien, s'il sait que c'est la prière d'Isha, eh bien, il doit compléter la prière de Maghrib, ensuite se joindre à l'imam. Mais s'il ne sait pas quelle est cette prière, eh bien, il n'a qu'à se joindre à l'imam. Et dès qu'il a fini sa prière d'Isha, il va devoir accomplir sa prière de Maghrib. Et il en est de même dans le cas de la prière d'Asr. Une personne a commenté qu'aucune prière n'est permise après la prière de Asr. Si par ignorance cette personne se joint à l'imam pour la prière de Asr, comment est-ce qu'elle va pouvoir accomplir la prière de Zohr? Le Messie premier salam a dit, c'est vrai que, selon la règle, aucune salat est permise après la prière d'Asr. Mais cela ne signifie pas qu'en raison d'une situation exceptionnelle et que l'on n'a pas accompli la prière d'Asr, cela ne veut pas dire qu'on ne pourra pas le faire après la prière d'Asr. Dans ce cas, il est permis d'accomplir la prière de Zohr après la prière de Asr. Si on est au courant, eh bien la prière de Zohr n'est pas permise après la prière d'Asr. Si on n'est pas au courant de cela, eh bien la prière de Zohr est permise après la prière d'Asr. Le deuxième calife déclare, j'ai moi-même entendu cela à deux reprises du Messie promis à l'Islam. Je me rappelle que lorsque on a posé cette question de nouveau au Messie promis à l'Islam, il a déclaré, j'ai déjà éclairci ce sujet, à savoir le respect de l'ordre des solas est très important, mais si quelqu'un ignore quelle est la sola que l'imam est en train de diriger, si c'est la prière d'Asr ou d'Isha, eh bien, il doit se joindre à l'imam. Sa salat sera celle que l'imam est en train d'accomplir. Par la suite, il va devoir accomplir la prière qu'il avait ratée. Le Messie premier salam avait l'habitude d'accomplir les prières sunnat à la maison, celles d'avant et celles d'après, les prières obligatoires. Cheikh Yaqub Alissab Irfani déclare, depuis le début, le Messie premier salam avait l'habitude d'accomplir les prières sunna et nawafil chez lui à la maison, et il accomplissait les prières obligatoires en congrégation à la mosquée. Et cette habitude a continué jusqu'à la fin de sa vie. Mais quelquefois, lorsqu'il voyait qu'il y avait des fidèles qui se sont joints à l'imam après, et que ces fidèles n'avaient pas encore terminé leur prière, et qu'il n'avait pas de place pour sortir, eh bien, il accomplissait ses sunna à la mosquée. Ou lorsqu'il devait rester à la mosquée après la salat, eh bien, il accomplissait ses sunnahs à la mosquée. Étant donné que le Messie premier Islam avait cette habitude, à son époque, certains étudiants ont cru dans leur ignorance que les sunnahs ne sont peut-être pas importantes car ils n'avaient jamais vu le Messie premier Islam accomplir ses sunnahs ni avant ni après les prières obligatoires. À ce sujet, le premier calife a mentionné lors d'un de ses commentaires sur le Saint-Coran que le Messie premier Islam avait pour habitude de rentrer chez lui tout juste après les prières obligatoires. Et je le fais régulièrement moi-même. En voyant cela, certains enfants ont pris l'habitude de sortir de la mosquée tout de suite après les prières obligatoires. Et je pense que de ce fait, ils sont privés des prières sunna. Il en est de même aujourd'hui aussi. Ces jeunes doivent comprendre que la première chose que faisait le Messie premier Islam en rentrant chez lui, c'était d'accomplir ses sunnahs. Et je le fais également. Le premier calife a demandé, y a-t-il quelqu'un de l'assistance qui peut attester de cette pratique du Messie premier Islam, à savoir que la première chose qu'il accomplissait en rentrant, c'était d'accomplir ses sunnahs. Son fils, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, qui participait à ces classes, a déclaré, sans doute le Messie premier Islam avait l'habitude de faire ses sunnahs avant de partir de chez lui. Ensuite, il accomplissait les prières obligatoires à la mosquée et aussitôt qu'il rentrait, il accomplissait ses prières sunna avant de s'affairer à ses tâches. Hazrat Abzada Mirza Bashir Ahmad Saib a donné ce même témoignage. Il en est de même que Mir Nasir Nawab et Mir Mohamed Ishaq Saib et un ancien serviteur du Messie premier Islam, Hafiz Hamid Ali Saib, a également fait part de son témoignage à cet égard. Dans ce cadre, on a posé une question, à savoir, est-il possible que l'on fasse de l'imamat un métier? Certains maulvis deviennent imams afin d'être rémunérés. Si vous suivez une personne dont le métier est d'être imam, alors je doute que votre prière soit agréée. Tout le monde est au courant que c'est son métier que d'être imam. Et ces personnes ne dirigent pas 5 prières par jour, mais ils ouvrent un commerce à 16 heures. Et lui et sa famille dépendent de ce commerce. En raison des conflits générés par ce métier, eh bien certains de ces cas sont présentés aux tribunaux et les mollahs font appel sur appel afin de valider leur diplôme d'imam. Ce n'est pas de l'imam, mais c'est une manière illégale et non appréciée de gagner sa vie. Il y a des procès suite à querelles liées au lieu où les imams veulent exercer et cela engendre de longues querelles et ces querelles perdurent jusqu'à aujourd'hui. On a demandé au Messie Premier Islam s'il est permis de prier derrière celui dont le métier est d'être imam. Il a dit, selon moi, il n'est pas correct de prier derrière ces personnes, parce que ces personnes dirigent la prière pour être rémunérées, et s'ils n'étaient pas payés, eh bien, ils ne dirigeaient pas la prière. Lorsqu'on gagne sa vie avec une intention pure, alors il s'agit d'un acte d'adoration. Lorsqu'une personne aime un travail et est ferme dans son intention, eh bien, cette personne ne souffre pas, cette tâche devient facile. On a aussi demandé s'il était permis de prier derrière ceux qui rejettent le Messie Premier Salam, s'ils le considèrent comme un imposteur, et ceux qui l'accusent de mécréance. Le Messie Premier Salam a répondu que c'est quelque chose de très mauvais, c'est interdit. Les peuples qui ont adopté la voie de la division et de l'imposture ont été anéantis. De ce fait, ils ne méritent pas que quelqu'un de ma communauté prie derrière de telles personnes. Un vivant peut-il prier derrière un mort? Ainsi, sachez que Dieu m'a informé qu'il nous a interdit de prier derrière de telles personnes. Il est interdit de prier derrière une personne qui nous accuse d'être des mécréants, des imposteurs, ou qui a des doutes à ce sujet. Vous devez choisir comme imam une personne de parmi vous. Et dans un hadith de Bukhari, il est dit « Imamukum minkum ». L'imam sera de parmi vous. Le Messie Premier Salam a expliqué pourquoi il est interdit de prier derrière celui qui rejette la communauté. Quelqu'un a posé cette question au Messie Premier Salam, pourquoi avez-vous empêché vos suivants de prier derrière ceux qui ne vous suivent pas? Le Messie Premier Salam a répondu, ceux qui ont rejeté de manière précipitée et avec de mauvaises intentions cette communauté qui a été initiée par Dieu et qui ne se sont pas souciés des signes qui sont apparus, et qui ne se sont pas souciés des malheurs qui ont frappé l'islam, eh bien, ces personnes n'ont pas fait preuve de taqwa de piété. Allah déclare dans sa parole pure, « Innama yataqabalu Allahu min al-muttaqin » à savoir qu'Allah accepte les prières des muttaqis. C'est pour cette raison qu'il a été enjoint de ne pas prier derrière des personnes dont les prières n'atteignent pas le niveau requis pour qu'elles soient acceptées. Deux personnes ont fait la baïra et l'une des deux personnes a demandé s'il était légitime ou non de prier derrière un non-ahmadi. Le Messie Premier a dit que ces personnes nous considèrent comme des mécréants et comme nous ne le sommes pas, eh bien cette mécréance retourne contre eux. C'est pour cette raison qu'il est interdit de prier derrière de telles personnes. Il y a aussi ceux qui sont silencieux, qui ne disent rien. Le Messie Premier dit à leur sujet que, quant à celui qui est silencieux et qui ne dit rien, il fait également partie d'eux. Il ne faut pas prier derrière eux car ils ont cette opposition dans leur cœur et c'est pour cette raison qu'ils ne se mêlent pas à nous. Ils ont cette hostilité à notre égard et c'est pour cette raison qu'ils ne se joignent pas à nous. Ils ne disent rien mais ils ont des doutes et une opposition de leur cœur et c'est pour cette raison qu'il n'est pas permis de prier derrière de telles personnes. En évoquant ce sujet davantage, le Messie Premier Islam déclare « Faites preuve de patience et ne priez pas derrière ces personnes qui n'appartiennent pas à votre communauté, cela est mieux, c'est là et la piété. C'est en cela que trouve votre aide et votre triomphe, c'est cela qui va faire progresser la communauté. » En ce monde, les personnes qui se sont fâchées pour des raisons mondaines ne se voient pas pendant plusieurs jours. Vous êtes fâchés pour la cause de Dieu. Donc, si vous allez vous mêler à ces personnes, si vous allez les côtoyer, eh bien, Dieu ne va pas vous accorder cette distinction. Lorsque la Jamaat pure sera séparée, c'est là qu'elle va progresser. Qu'Allah nous permette d'être un membre sincère de cette communauté pure, tout comme le souhaitait le Messie promis les salam. Je souhaite à la fin vous demander de prier pour les Ahmadis de l'Algérie. C'est une toute nouvelle Jamaat et la plupart de ses membres sont des nouveaux Ahmadis, mais ils sont fermes dans leur foi. Ces jours-ci, l'État a durci le ton à leur égard. On leur a intenté des procès sans aucune raison. Certains ont été emprisonnés. On les accuse, qu'Allah nous en protège, d'être semblables aux gens de Daesh. Alors qu'aujourd'hui, dans n'importe quel pays, les membres de la communauté Ahmadiyya sont les habitants les plus pacifiques et ce sont les citoyens les plus respectueux des lois en vigueur. Mais comme ils cherchaient des chefs d'accusation, c'est pour cette raison qu'ils ont tenté de faire ce parallèle entre Daesh et la communauté. Dans certains endroits, la police est même entrée dans les maisons et a essayé de dévoiler les femmes. On a demandé à une femme de retirer son voile et cette femme a répondu que « Vous pouvez me tuer, mais je n'ôterai pas mon voile et je n'abandonnerai pas l'Ahmadiyya non plus. » Les juges aussi font preuve d'une grande injustice. L'injustice a atteint son comble. Un Ahmadi a rapporté qu'un juge lui a dit que si tu quittes l'Ahmadiyya, eh bien tu seras libéré tout de suite. L'Ahmadi a déclaré que je suis prêt à mourir, mais j'abandonnerai pas l'Ahmadiyya. J'abandonnerai pas ma foi, car c'est cela l'islam véritable. Je l'ai découvert que maintenant. Le juge a dit que très bien, eh bien, étant donné que tu as fait cette déclaration, tu vas rester en prison le restant de tes jours et tu vas y mourir. L'Ahmadi a dit que faites ce que vous voulez. Voilà donc la situation là-bas en Algérie. Qu'Allah facilite la vie des Ahmadis algériens et qu'il leur accorde persévérance et constance. Et qu'Allah fasse retomber sur les ennemis de l'Ahmadiyya les conséquences de leurs actes. Et qu'Allah protège chaque Ahmadi de ses persécutions.